Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot. This is why, this is why, this
is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans ce magazine des industries culturelles et du numérique Soft Power, comme tous les dimanches jusqu'à 20h et en direct. Cédric O est secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques et mon invité grand témoin ce soir. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Dans le plan de relance annoncé par le Premier ministre, qui se monte à peu près 100 milliards, est-ce qu'on peut dire, puisque 7 milliards concernent le numérique, que vous pesez 7 milliards sur les 100 milliards, c'est-à-dire 7%?
Alors probablement un petit peu plus, parce que sur le dénominateur, c'est-à-dire les 100 milliards, il y a entre 20 et 30 milliards qui sont transverses et qui profitent à tous les secteurs. Et donc sectoriellement, je pense que le dénominateur est plutôt à 60-70. Et donc vous pouvez dire que le numérique est probablement dans les secteurs, après l'environnement bien sûr, le secteur qui est le deuxième plus concerné par le plan de relance.
Par ce plan de relance. Vous serez interrogé ce soir, Cédric Co, par Emmanuel Paquette de L'Express et Zoé Sfez de France Culture. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir à tous.
Dans un instant, l'actualité de la semaine dans le secteur des industries culturelles et numériques. Et à 18h30, le box-office de la semaine, livres, cinéma, musique et jeux vidéo. Et puis à 19h30, le Village Global, notre nouvelle séquence d'actualité culturelle, intellectuelle, internationale, avec ce soir Shlomo Sand, professeur d'histoire à l'Université de Tel Aviv, auteur de La fin de l'intellectuel français de Zola Houellebecq aux éditions La Découverte, qui sort en poche ce mois-ci. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power ce dimanche, une émission réalisée ce soir par Alexa Malka, avec en régie Jacques Hubert et je crois Jean-Frédéric, mais il y en a deux, il n'y en a plus qu'un, on ne sait pas trop. C'est Jacques Hubert, virgule Jean-Frédéric. Puisqu'on parle de virgule. Cette émission a été préparée par David Pata avec pour les réseaux sociaux Nicolas Gastineau, car vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify ainsi que sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. C'est le magazine des industries culturelles et du numérique Soft Power en direct jusqu'à 20h sur France Culture, vous avez le programme. C'est parti. Un mot pour commencer cette émission, sorte d'éditorial ce soir, au sujet du déboulonnage des statues des démembreurs, défenestreurs et autres équarisseurs de talent. Colbert, Voltaire, Thiers, Jules Ferry et tant d'autres risquent de se voir symboliquement couper la tête. Les grands hommes et les grandes femmes ont-ils toujours été parfaits? Non, bien sûr, chacun, chacune a sa part d'ombre. Aucune des figures qui reposent au Panthéon, célébré ce vendredi par le président de la République, n'est un saint ou un surhomme. Chacun a commis des fautes, des excès, des erreurs. Beaucoup de ceux avec le nom desquels on a baptisé les rues de France ont été colonialistes ou racistes. D'autres ont participé à des guerres injustes. Faudrait-il déboulonner les statues de Rousseau ou le dépanthéoniser, vilain mot, parce qu'il a abandonné ses enfants? Et au-delà du Panthéon, faut-il renoncer au statut de Jules Ferry parce qu'il fut colonialiste? Faut-il débaptiser les centaines de rues Adolphe Thiers dans tous les villages de France parce qu'il a été le liquidateur de la commune? Faut-il déboulonner les statues de Napoléon et débaptiser nos ponts d'Iéna et nos gares d'Austerlitz en raison des famines, des morts, des invasions qu'il a causées? André Malraux a pillé des dizaines d'œuvres d'art. Verlaine a battu sa femme. Rimbaud a vendu des armes et ainsi de suite avec Léon Gambetta ou Jean Jaurès, Alexandre Dumas, Émile Zola ou même Marie Curie. Nul être n'est parfait, même si ceux qui sont rassemblés au Panthéon ou dont le nom trône sur les plaques de nos rues sont bien moins imparfaits que nous autres pauvres vivants. Aucune vie n'est droite sur la durée de l'enfance à la mort. Et rendre hommage à une femme, à un homme, ne revient pas à embrasser tous les visages d'une personne, toutes ses idées, toutes les actions d'un parcours. Nul n'est grand tous les jours, toute une vie. Débaptiser une rue, déboulonner une statue, effacer un nom serait donc une erreur, à moins que la représentation nationale le décide, ce qui est son droit, comme ce fut le cas pour Mirabeau, entré au Panthéon, puis sorti, à cause de l'armoire de fer, et bien sûr pour Pétain. Mais une telle décision, grave pour des hommes et des femmes qui ne peuvent plus se défendre, ne peut être prise que par les élus. On ne peut pas soi-même vouloir se faire justice tout seul au nom de telle ou telle minorité, race ou sexe. On ne peut pas tout seul décider d'effacer la complexité et les vies multiples d'un homme. Si nous entrons dans cette spirale du nettoyage de nos statues, vous verrez qu'il n'en restera aucune. Et bientôt, vide sera le Panthéon, sans nom seront nos vies et nos rues. Cette semaine, ce fut le tour de Guy Hockenheim, dont la plaque a été enlevée par la ville de Paris, hypocritement d'ailleurs, puisque ce fut un peu secrètement que ça s'est passé, nuitamment, parce qu'il fut, dit-on, le défenseur de la pédophilie. Alors rappelons d'abord que Guy Hockenheim fut le plus important militant de la libération homosexuelle dès 1971, et sa grande interview au Nouvel Obs, puis le fondateur du Phare et un journaliste hardi du journal Libération. Ses livres sont passionnants, essentiels, entre désir et dérive. Son combat a marqué des générations de personnes. Et pourtant, il fut aussi, cela est vrai, hélas, un défenseur idéologique de la pédophilie, notamment au début des années 80, dans des textes précis, notamment l'odieux livre « Les petits garçons » en 1983, où il a défendu la pédophilie, fait l'apologie de son mentor René Scherrer, nié la nécessité de pénaliser le viol, s'attirant ainsi d'ailleurs les foudres des féministes, et dénoncé l'ordre moral qui empêchait la sexualité des enfants. Il fut aussi, on l'a oublié, un négateur de la réalité du sida, niant la maladie et refusant qu'on se mobilise contre elle ou qu'on utilise des préservatifs pour ne pas tomber dans, je cite, l'hygiénisme. Il attaquait violemment et justement, lâchement, l'association AIDE et fut dans un déni grave du sida encore tardivement dans deux articles de Guépier Hebdo en juillet et septembre 1985, maladie qui allait l'emporter et emporter également des dizaines de milliers de Français. Alors Hockenheim bascula dans ces sujets et puis plus tardivement, lui, l'ancien communiste, révolutionnaire et Maos Pontex, il évolua vers des formes d'eugénisme racial, nourrissant une ambiguïté avec la droite dure d'Alain de Benoist à la fin de sa vie, ce qui lui a valu d'être écarté du journal Libération. Il y a même de la haine, de la diffamation, des éléments de racisme, sinon d'antisémitisme, dans son dernier pamphlet outré et ultra, baptisé « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary Club ». Tout ça, la mairie de Paris n'aurait pas dû l'ignorer avant de lui attribuer une plaque en janvier dernier. Quel amateurisme, quelle inculture, quelle incompétence de la part d'Anne Hidalgo ou de ses services ou de l'adjoint alors de la culture, à la culture Christophe Girard ou bien encore, car on ne sait pas trop ni très bien qui a eu cette idée stupide, du militant LGBT Jean-Luc Romero peut-être aussi, dont on dit que l'un de cela ou les services de la mairie ont incité la maire de Paris à faire poser cette plaque en l'honneur de Guy Hockenheim. Nul ne savait vraiment qui il était. Il n'avait non pas vraiment lu ses livres, il n'avait même pas lu sans doute sa page Wikipédia. D'autres plaques posées par Anne Hidalgo feront débat. L'activiste radical Klaus Wehle ou Pierre Selle, par exemple, méritait-il également une plaque à Paris? Le débat va s'ouvrir. Hockenheim, en tout cas, n'en méritait pas. C'est une faute. Voilà pourquoi il ne fallait pas déboulonner la statue d'Hockenheim. Il ne fallait pas enlever discrètement et hypocritement la plaque de commémoration concernant Guy Hockenheim. Il n'aurait juste jamais fallu la poser.
My father cannot fight, so I will take his place.
You will now take the oath of the warrior.
Loyal.
Brave.
True.
There is a place for people like us.
A girl threatens our plans.
A warrior.
France Culture, 18h19, l'actualité d'industrie culturelle et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs Emmanuel Paquet de L'Express et Zoé Sfès de France Culture ainsi que Cédrico, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. On commence avec vous Emmanuel Paquet à propos du film Mulan qui, à sa façon, à travers Disney, lance sa propre, si on peut dire, chronologie des médias. Expliquez-nous ça.
Oui, effectivement. Alors, ça ressemble un peu à un test, une expérimentation d'apprenti sorcier de la part de Disney, puisque ce film, quand même, d'un budget de 200 millions de dollars, devait sortir en salle. À cause du coronavirus, finalement, le film n'a pas pu sortir. Et Disney a décidé de le réserver soit aux abonnés de Disney+, son service, sa plateforme de vidéo à la demande, moyennant un paiement à partir du 4 septembre, donc avant-hier, de 29,9 dollars aux États-Unis. et dans d'autres pays, notamment en Europe, 22 euros en Allemagne et en Espagne. Alors pas en France, c'est là où c'est un peu plus compliqué, puisque là, Disney a réservé une deuxième fenêtre d'exploitation, qui sera celle du 4 décembre, et là, à partir du 4 décembre, tout le monde pourra avoir accès gratuitement à Mulan dans l'offre Disney+. Alors, il y a encore une autre fenêtre d'exploitation, pour ceux qui n'auraient pas suivi jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le film va bien sortir en salle, mais en Chine, le 11 septembre prochain, puisqu'en fait, Disney+ n'est pas présent sur le territoire chinois, et il y a beaucoup de cinémas qui ont pu rouvrir là-bas. Donc là, Disney veut rentrer dans les salles. Et pourquoi, en fait, Disney joue un peu l'apprenti sorcier? C'est qu'il teste différentes formes de vente et de propositions de ce film. Alors, pour ma part, je trouve que c'est une énorme monumentale. Il se trouve que hier, sur les plateformes de téléchargement dites illégales, j'ai trouvé le film en deux clics, je l'ai téléchargé en deux minutes et en français. Donc réserver une période de trois mois après l'avoir sorti aux États-Unis, c'est ouvrir un piratage, et je ne fais pas l'apologie du piratage, mais il se trouve extrêmement facilement, et je pense que tous les pays peuvent y avoir accès, puisque aux États-Unis et dans les autres pays, il est diffusant dans toutes les langues.
On peut aussi dire que c'est une période de transition avec des rapports qui ont été commandés au directeur du CNC. Je crois que le président du GC, Alain Susfeld, a été aussi mandaté pour réfléchir à ces nouvelles chronologies des médias, notamment par rapport à Netflix. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre un peu transformationnel, normal que Disney et d'autres comme Apple ou Amazon cherchent un peu leur chemin ?
C'est-à-dire que aujourd'hui, on a une directive qui a été votée, qui est en transposition, qui va être transposée en fait en droit français, qui oblige les plateformes à financer la création française et plus largement la création européenne. Jusqu'à 25% du chiffre d'affaires des plateformes devrait être réinvesti dans de la production. Alors après, il y a plein de questions. C'est quel type de production ? C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les créateurs aimeraient qu'il y ait 50% pour le cinéma, 50% pour l'audiovisuel, ce que veut pas vraiment les plateformes, notamment Netflix. Et puis, il y a une deuxième question qui est quid du film et du cinéma indépendant. Là, Disney, visiblement, a déjà dit que eux, c'était pas leur style de financer du cinéma indépendant. Ils sont plutôt sur des franchises. Donc, il y a des discussions qui sont un petit peu complexes. Et puis, un des acteurs qui aujourd'hui ne vient pas à la table, c'est Apple, qui a lancé son service Apple TV+, qui pour l'instant ne fait pas encore partie des discussions. Alors, ça arrivera peut-être un peu plus tard. Et la contrepartie de cette obligation de financement, c'est de dire que les plateformes pourront proposer les films probablement un peu plus tôt, puisqu'aujourd'hui, c'est 36 mois, 3 ans après la sortie en salle. La question est de savoir jusqu'où on va réduire cette fenêtre. En tout cas, il est certain que ça ne sera pas comme Disney avec 3 mois après la sortie sur la vidéo à la demande.
Oui, effectivement, on est sur un moment de temporalité où il y a plein de choses qui s'entrechoquent. La transposition de cette fameuse directive SMA, on en a souvent parlé ici. Le Covid, qui clairement a chamboulé les agendas et accéléré des processus qui étaient à l'œuvre de manière plus ou moins rapide depuis plusieurs années. Et cette fameuse loi audiovisuelle que le gouvernement avait lancée, puis finalement a pris du retard. Et donc, on est sur des problématiques où, de toute façon, la question clé de la chronologie des médias, en France, elle va de toute façon de pair avec celle du financement. Donc tant qu'on n'a pas, c'est un espèce de cercle vicieux, tant qu'on n'a pas des vraies clés sur la question de financement, on ne peut pas revenir sur la chronologie des médias, et inversement, d'autant plus dans une situation où on l'aura entendu, les exploitants en salle, qui sont quand même ceux que cette chronologie des médias est censée protéger, sont dans une situation particulièrement fragile en ce moment. Mais c'est intéressant de voir ce qui pourra se jouer, notamment au niveau français, dans les semaines et les mois à venir, sachant qu'encore une fois, on est avec des acteurs qui, eux, ne jouent pas uniquement sur notre terrain, comme on l'a entendu dans ce que vous avez dit, Emmanuel.
Une réaction, Cédrico ?
Oui, je veux ajouter un élément qui bouleverse le jeu, évidemment, depuis quelques années. C'est l'émergence d'acteurs quasi oligopolistiques dans le champ audiovisuel. On a cité Disney, évidemment, on pense à Netflix, qui bouleverse complètement le jeu de la chronologie des médias, des rapports de force dans l'industrie du cinéma, et qui sont une dimension de complexité supplémentaire dans cette industrie qui connaît déjà des grandes transformations et des grandes difficultés depuis assez longtemps.
Autre sujet lié indirectement à celui-ci, Apple et Google qui répercutent, a-t-on appris, Emmanuel Paquette, cette semaine, la taxe GAFA sur les annonceurs et les développeurs d'applications, notamment mobiles ou téléphones mobiles. On vous fera réagir, Cédrico, juste après, mais peut-être que s'est-il passé, Emmanuel Paquette ?
Oui, alors il faut voir qu'aujourd'hui, il y a 22 pays dans le monde, selon une étude de KPMG, qui aujourd'hui ont créé une taxe numérique, dont la France, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Autriche, pour ce qui concerne l'Europe, et d'autres pays sont en train de suivre. Alors après, c'est sous différentes formes et avec différents taux, mais en tout cas, tous les pays veulent essayer de taxer ces sociétés qui sont considérées comme des prodiges, entre guillemets, de l'optimisation fiscale dite agressive, c'est-à-dire qu'ils arrivent à échapper en grande partie à l'impôt qu'ils devraient payer dans chacun des territoires. Donc ça, c'était le constat de départ. Là-dessus, l'OCDE s'est dit on va entamer des discussions pour essayer d'avoir des règles communes dans tous les pays. Ces discussions patinent, notamment à l'aune de la position de Donald Trump, qui considère que, qui a décidé de faire un peu pause sur les négociations au sein de l'OCDE. Et la France a décidé de mettre en place une taxe en attendant que les discussions reprennent, une taxe de 3% du chiffre d'affaires des plateformes. Alors ça, c'est une taxe qui s'assoit sur une assiette qui concerne notamment la publicité en ligne, et puis les transactions numériques faites sur Internet, notamment le Bon Coin par exemple, où là, il y a des commissions qui sont reversées, qui sont prises par la plateforme. Donc on en était là. Il y a déjà un premier versement qui a été fait l'an dernier par les plateformes de l'ordre de 352 millions d'euros qui a été directement dans les poches de l'État français. Et puis, là, Apple et Google ont décidé de répercuter cette taxe effectivement auprès des annonceurs et auprès des développeurs d'applications concernant Apple qui sont téléchargés sur l'App Store. Donc, in fine, la taxe est en train de louper son but puisque ce sont les consommateurs qui vont payer cette taxe qui est répercutée directement par les géants du numérique. Et ce n'est pas eux qui vont puiser dans leur poche béante puisqu'ils ont touché aujourd'hui pas loin de 500 milliards de dollars en cash de trésorerie. Ça ne fait que continuer à croître et pour cause puisqu'ils arrivent à répercuter cette somme. De fait, puisqu'ils sont en position oligopolistique, comme vous le disiez précédemment, et que les développeurs ne peuvent pas s'en passer, et les annonceurs non plus.
Cédric Haut, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, à la fois une réaction, et peut-être plus globalement, on voit bien que c'est compliqué de taxer ou tout simplement de réguler les GAFA.
Je pense d'abord qu'il ne faut pas reculer sur la question de la taxation, et qui est absolument légitime, qui considère que...
De payer ses impôts.
Effectivement, il est normal que des acteurs dont la richesse est pour partie produite par les consommateurs français, les consommateurs européens, payent leur juste impôt sur le territoire français ou européen, ce qui est plus difficile à attraper dans un monde numérique où tout est fluide, où vous pouvez localiser telle ou telle part de profit ici ou là beaucoup plus facilement que lorsque vous avez des magasins. Donc il est normal d'augmenter la taxation globale des grandes entreprises du numérique. Maintenant, vous avez raison, elles ont une capacité qui est de répercuter une partie de cet argent sur les consommateurs ou sur les entreprises avec lesquelles elles sont en affaires. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont la capacité de le faire ? C'est qu'elles sont précisément en position oligopolistique. S'il y avait de la concurrence et si elles avaient d'autres personnes qui, en face d'elles, pouvaient décider de ne pas répercuter cette taxe et donc d'avoir un avantage prix, elles ne le feraient pas. Or, aujourd'hui, notamment sur les terminaux, hors Google Play et App Store, vous n'avez pas d'autres options, donc vous êtes quelque part enfermé dans cette situation de fermeture de marché, et c'est pourquoi le vrai sujet de la régulation d'Internet, le vrai sujet de la régulation des GAFA, c'est les questions qui sont actuellement sur la table au niveau européen à travers un règlement qui s'appelle le Digital Services Act qui doit être présenté avant la fin de l'année, sur la question de cette situation oligopolistique, sur la question de la régulation de ces marchés. On peut considérer, c'est notre opinion en tout cas au sein du gouvernement, que aujourd'hui Google, Apple, Facebook ou Amazon dans d'autres termes, sont devenus des infrastructures essentielles et qu'en tant qu'infrastructure essentielle, puisqu'on ne peut pas passer en dehors d'elle, eh bien elle doit être régulée par la puissance publique et qu'on ne peut pas laisser toute une partie de nos infrastructures dans la main d'acteurs privés. C'est comme si on disait aujourd'hui que nos routes, nos ponts ou nos aéroports étaient systématiquement dans la main d'acteurs privés qui pouvaient en décider les prix comme ils voulaient, puisque de toute façon, ils avaient un monopole. Et donc c'est toute une part de législation qui doit encore être prise, mais je ne pense pas que pour autant il faille revenir sur cette taxe GAFA, parce que pour le coup, ce serait vraiment une défaite en race campagne, et abandonner une question principielle qui est celle du juste impôt, qui me semble très importante.
C'est une question d'abus de position dominante, qui finalement revient à Roosevelt, y compris à des règles américaines, qui, lorsqu'on crée la FCC, la Federal Communication Commission, la Federal Trade Commission, c'est-à-dire, oui au capitalisme, disait Roosevelt, mais un capitalisme régulé.
Bien sûr, il y a un livre assez intéressant sur le sujet américain qui s'appelle The Curse of Bigness de Tim Wu, qui fait d'ailleurs l'histoire des grands procès sous Roosevelt, ensuite les démantèlements d'AT&T, les procès Microsoft, jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une difficulté particulière des GAFA et des très grandes entreprises du numérique en règle générale. D'abord, toutes ne posent pas le même problème. Le problème de Google, c'est pas le même que le problème de Facebook, qui n'est pas le même que le problème d'Apple, ni qui n'est pas le même problème que celui d'Amazon, et qui ensuite, compte tenu de la plasticité et de la spécificité de leur abus de position dominante et du fait que tout ça ne coûte rien apparemment, puisque pour le consommateur, tout cela ne coûte rien. Disons que les règles actuelles sur lesquelles est fondé le droit de la concurrence et plus largement les droits qui concernent ces situations-là ne sont plus adaptées et nécessitent une mise à jour.
Emmanuel Paquette.
Oui, alors une mise à jour, on en parle depuis longtemps. Hein. Il y a eu, même aux États-Unis, ils disent que les outils ne conviennent plus. Ce qui ne les empêche pas aujourd'hui d'entamer une procédure à l'encontre de Google. On attend d'ici la fin du mois ou au plus tard à la mi-octobre un procès antitrust à l'encontre de Google dans deux domaines. Le moteur de recherche, abus de position dominante, et abus de position dominante également sur le marché des annonceurs, enfin donc de la publicité sur Internet. Que fait l'Europe en attendant? Même si, de fait, l'Europe a déjà condamné Google, notamment sur l'abus de position dominante, sur tout ce qui touche à la publicité, notamment le moteur de recherche shopping.com.
C'est quand même une fonctionnalité marginale. Fin.
Voilà, elle est plutôt marginale, effectivement.
Ouais. Et donc là, c'est l'antitrust américain, c'est DOJ, c'est-à-dire c'est le Department of Justice.
Il y a plusieurs procédures actuellement. Il y en a une, je crois, auprès de la FTC, donc la Federal Trade Commission. Il y en a une du DOJ, donc le Department of Justice. Et il y en a des États américains, puisque la
spécificité
américaine
enfin.
Fait que les États eux-mêmes peuvent intenter des actions. On verra ce qui se passe aux États-Unis. Ce que je pense, c'est que la solution risque d'être une solution de droit de la concurrence habituelle, c'est-à-dire que il y aura une amende, comme il y en a eu par le passé, comme il y en aura à l'avenir. Or, on se rend compte, et l'Europe est une bon exemple, que le problème de l'amende ne suffit pas. On a déjà mis ici 3 milliards, ici 10 milliards d'amendes à Google et à Apple. La question qui se pose est celle de la régulation, et de la régulation, comme on régule aujourd'hui par exemple les télécoms, où un certain nombre de relations d'affaires entre les uns et les autres ne sont pas libres, où on peut réguler un certain nombre de prix.
Mais ils sont nationaux, ce qui n'est pas le cas des GAFA.
Et donc la question qui se pose est de poser cette régulation au niveau européen. C'est cette discussion qui est en cours où la Commission a mis sur la table un certain nombre de propositions extrêmement ambitieuses.
Via
Margrethe Vestager et Thierry Breton. On doit avoir, donc on a un débat actuellement entre pays européens avec la Commission sur ce vers quoi on veut aller. Et nous avons bon espoir, nous avons beaucoup poussé sur ça, qu'on ait des propositions très ambitieuses qui soient posées sur la table d'ici de la fin de l'année par l'Europe, mais qui iraient au-delà du droit de la concurrence tel qu'on l'a connu jusqu'ici.
Mais quand vous parlez de régulation, vous parlez de taxation, parce qu'on sait que c'est le problème majeur en l'Union européenne, c'est qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur la manière dont on doit taxer les gens. Quand vous parlez de régulation, vous parlez de taxation, et donc pas uniquement d'amende, ou même au-delà.
Non, je parle de régulation, pardon, du terme technique ex ante, c'est-à-dire que vous avez un régulateur qui peut considérer à un moment, par exemple, que vous avez un bien essentiel, soit un moteur de recherche, soit une application de cartographie, et que c'est lui qui régule les tarifs que vous appliquez à vos clients, ce qui permet d'éviter les abus de position dominante. Ce qui est vraiment très différent, beaucoup plus difficile à mettre en place parce que c'est beaucoup plus agressif pour le droit de propriété, mais qui est la solution si on veut être au bon niveau de l'enjeu.
Le pass culture est également un beau projet, j'en hérite, et pour passer de l'expérimentation à la généralisation, le temps est venu d'un bilan d'étape apaisé.
Un instant, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, elle s'exprimait le 6 juillet dernier, c'était au moment de la passation de pouvoir avec Franck Riester au ministère de la Culture. Et dans ce document d'archives, on sent bien déjà à l'époque un peu la prudence vis-à-vis du pass culture de la ministre de la Culture, mesure pourtant phare de la politique culturelle du quinquennat Macron. Le pass culture est-il mort? Alors le doute s'installe après de nouvelles interventions de la ministre qui, tout récemment, a insisté d'abord sur le fait que, je cite, « l'État n'abandonnera personne ». Elle indiquait également dans le journal Le Monde que le lancement du pass culture montrait des fragilités. Les expérimentations ont échoué, les jeunes ne dépensent même pas un quart des 500 euros qui sont chargés sur leur pass et surtout, ils achètent des produits aux SFES pour les revendre.
Oui, alors je fais un petit rappel de ce pass culture, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et pourtant on l'a beaucoup suivi dans cette émission.
Et beaucoup aimé.
Beaucoup aimé, donc le pass culture, je le rappelle, c'est une application, c'est le projet phare, voire c'était un peu le seul projet dont Emmanuel Macron parlait dès sa campagne, et la raison pour laquelle, en dépit, on sentait même en interne de quelques doutes, il a quand même été lancé à titre expérimental. Expérimental, c'est ça le mot que je cherchais.
Dans plusieurs départements.
En juillet 2019, ouais. Voilà, c'était dans plusieurs départements. Donc en fait, déjà l'année dernière, au moment où le pass est mis à la disposition des jeunes de ces différents départements, qui sont des départements parfois plus fragiles, donc on avait la Seine-Saint-Denis, on avait certains départements d'outre-mer, donc avec une espèce de panachage d'expérimentation. Effectivement, sur 150 000 jeunes qui pouvaient télécharger cette application et prétendre à donc ces 500 euros alloués qui donnaient lieu à des biens culturels, et bien seulement 25 000 ont téléchargé l'application. Et sur ces 25 000, en moyenne, seulement 120 euros ont été dépensés par ces jeunes. 120 euros dépensés, alors on aurait pu se dire, en plus on est sur une année très particulière, 2019-2020, on a quasiment plus de 4 mois de confinement. Parmi les biens proposés à la consommation, les biens culturels proposés à la consommation, il y avait autant des services de streaming que des biens réels, des biens touchables, concrets, c'est-à-dire des livres, c'est-à-dire des places de théâtre. On pouvait se dire qu'à la rigueur, ces 120 euros, ils auraient été utilisés justement pour du streaming. Eh bien non, c'est ce que nous explique Rosine Bachelot. Ils ont été quasiment, en moyenne, beaucoup investis dans des biens physiques qu'a priori, on peut se poser la question, peuvent être revendus par ces jeunes. On sait que c'est ce qui s'était en grande partie passé en Italie où un truc qui s'appelait Bene Cultura, qui n'était pas une application mais un chèque culture pour le coup, avait donné lieu à ce type en fait de pratique, et le gouvernement italien avait fini par l'amender puis finalement par y renoncer dans certaines régions. Le fait est que ce bilan établi par Roselyne Bachelot lui-même appelle à des questions, puisque effectivement on sait que le pass culture est déjà financé sur l'année qui va venir, avec des financements qui restent encore aujourd'hui assez complexes à comprendre, puisqu'on le sait, c'est à la fois les services qui sont représentés sur ce pass culture qui sont censés le financer, mais
qui ne le veulent pas vraiment.
Qui ne le veulent pas toujours, et puis surtout on est dans une situation extrêmement complexe pour la plupart de ces acteurs, après quasiment 6 mois de confinement, et notamment pour tout le volet spectacle vivant, les salles de spectacle qui ont déjà du mal à ne pas fermer. Roselyne Bachelot, que dit-elle ? Roselyne Bachelot, on le sait, c'était pas son projet, c'était pas son programme. Elle explique que l'idée n'est pas pour le moment, en tout cas, de l'abandonner. Elle part du principe que, je cite, comme sur beaucoup de dossiers de la démocratisation de la culture, on s'aperçoit qu'il y a un besoin d'accompagnement. À l'intérieur des établissements scolaires et universitaires, on pourrait imaginer la création d'un référent passe culture. Alors, de là à imaginer que peut-être qu'il y aurait peut-être une administration connexe liée au passe culture dans quasiment toutes les structures étatiques, elle explique que non. Mais il y a globalement une vraie réflexion très importante à mener sur ce passe avant de le généraliser. J'en parle avec Jean-Michel Blanquer. Alors, on est vraiment sur une interrogation. Est-ce que ce passe, qui de toute façon a toujours soulevé des doutes, y compris en interne, y compris chez les acteurs qui sont censés le financer, dans une période très particulière, qui est celle de cette crise post-Covid, est-ce que ce ne serait pas peut-être le moment d'y renoncer ? C'est une question, on aura la réponse dans quelques semaines, je pense.
Je suis sûr qu'on reparlera dans cette émission du passe culture. Ça nous fait une année, hein, finalement. Ce sera la nouvelle année passe culture. Last time it was no tennis.
One of these bullets is like us, traveling forwards through time. The other one's going backwards. Can you tell which is which? How about now?
Why does it feel so strange?
You're not shooting the bullet. You're catching it.
Whoa.
À suivre dans Soft Power, Cédric Coe, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, est le grand témoin, grand invité de cette émission ce soir. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, voici le Box Office, notre nouvelle séquence hebdomadaire proposée chaque dimanche dans l'émission Soft Power de France Culture. Elle est réalisée avec nos partenaires, l'Institut d'études GFK pour les ventes de livres et de jeux vidéo, et CBO Box Office pour le cinéma, sans oublier le Billboard de la semaine et le Top 50 France de Spotify. En littérature et fiction, il fallait s'y attendre. Emmanuel Carrère domine la rentrée. Son livre Yoga, une œuvre complexe et semble-t-il sincère, qu'on avait déjà lu pour vous dès la semaine dernière, arrive directement en tête des ventes en première semaine du panel Livre GFK. Il est suivi de près par le best-seller de l'été, Les aérostats d'Amélie Nothomb. Côté non-fiction, les ventes confirment le succès de L'essai de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes, volume 1, livre politique le plus vendu cette semaine encore. À la deuxième place apparaît cette semaine Une farouche liberté, livre d'entretien et livre testament de l'avocate Gisèle Halimi, qu'elle a coécrit peu avant sa mort avec la journaliste Annick Cojan. Au cinéma, après un embargo inédit dans l'histoire du box-office, nous avons enfin les chiffres de la première semaine de sortie de Tenet, premier blockbuster post-confinement, dont on écoute d'ailleurs la bande originale, avec 40% de parts de marché et près d'1 million d'entrées entrées France en première semaine. Le film de Christopher Nolan règne sans partage sur le classement. Étrange expérience d'ailleurs, hein, je l'ai fait, que ce Tenet où des spectateurs masqués dans la salle observent des acteurs masqués à l'écran. Quelle expérience, je vous jure. Tenet, cependant, nous a plutôt déçus. Trop long, trop complexe pour les pauvres terriens et pas tout jeunes que nous sommes. Le journaliste Michel Guérin dans Le Monde avoue d'ailleurs ne rien avoir compris du tout au film. Alors, question de génération, me direz-vous. On sait que certains millennials, tendance génération Z, sont retournés voir le film plusieurs fois pour comprendre chaque allusion et chaque symbole. Autant vous dire qu'une fois m'a personnellement largement suffi. Tenet n'est pas moins efficace en termes de box-office, n'en est pas moins efficace en termes de box-office. Le film relance presque à lui seul le secteur du cinéma qui a été anéanti par la crise du Covid-19 au plus grand bénéfice des exploitants et de l'ensemble du cinéma français, mais loin devant le franchouillard effacé l'historique qui, avec seulement 250 000 entrées, a un résultat décevant. Le film, on l'a dit ici, est lui-même assez, voire très décevant. Cédrico, vous l'avez aimé ce film ?
J'ai vu Effacer l'historique. J'étais moi-même un grand fan de Groland, mais je crois que je préfère Groland.
Pour les jeux vidéo, Animal Crossing sur la Nintendo Switch est toujours le titre le plus populaire. Fait amusant, Joe Biden, candidat à la présidence des États-Unis, y mène même sa campagne. Il est désormais possible d'afficher son soutien au candidat depuis son village virtuel dans Animal Crossing. On note également le retour en fanfare 10 ans après de la firme Captain Tsubasa, adaptation d'un légendaire manga de football japonais connu par les jeunes des années 90 sous le nom en français Olive et Tom, qui prend la deuxième place du box-office jeux vidéo. En musique, pour terminer, la première place du top 50 de Spotify France est toujours trustée par le single 100% marseillais du rappeur Jul, bande organisée. La musique s'ouvre sur des chants de supporters marseillais. On y trouve tous les ingrédients du succès de Jul, une production festive, un refrain hyper efficace, une ambiance entre potes. En 20 jours, il a fait pas moins de 40 millions de vues sur YouTube. Enfin, signalons la bonne performance dans le Billboard US de BTS, un groupe coréen qui prend la tête du Billboard, talonné par Cardi B et surtout Drake, dont le nouveau Love Now, Cry Later, que l'on écoute dans un instant, est magnifique en collaboration avec Lil Durk. Vous le savez maintenant, le box office livre, cinéma, jeux vidéo et musique est désormais diffusé en direct chaque semaine dans Soft Power en partenariat avec l'Institut d'études GFK et CBO Box Office. Vous pouvez également le retrouver sur le site de France Culture. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, ayy. Shawty come sit on my lap, ayy. They saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap, ayy. I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this? Transculture, il est 18h43.
Transculture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Mon invité ce soir, grand témoin de cette émission, est Cédrico, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Pour faire plus simple, Cédrico, je dirais secrétaire d'État au numérique, ça vous ira ?
C'est bien.
Si on prend votre parcours, retenons 5 dates, on pourra en prendre d'autres bien sûr. Vous avez fait HEC, vous avez travaillé dans le privé pour Safran, c'est la deuxième date. Troisième date, vous faites partie de l'équipe de Dominique Strauss-Kahn au primaire 2006. Vous êtes d'ailleurs membre de Terra Nova, le club attaché parlementaire du député Pierre Moscovici. Un petit côté, bébé Strauss-Kahn puis bébé Mosco à l'époque. Vous êtes directeur adjoint, c'est le quatrième point de la campagne de François Hollande en 2012. Cinquième point, vous êtes trésorier, vous devenez trésorier d'En Marche. Les Macron Leaks d'ailleurs montrent que vous êtes soucieux de l'argent public. D'autres s'en sont moins bien sortis que vous. Et vous êtes conseiller numérique du président et du premier ministre entre 2017 et 2019 avant de devenir ministre, donc secrétaire d'État au numérique. Quand on aborde les questions de numérique et que comme ministre on en a à la charge, est-ce qu'on se dit pas un peu un jour, vous savez cette formule culte prononcée par Peter Parker dans Spider-Man, tu n'es pas Superman, tu sais.
Non, je pense qu'il faut être extrêmement humble par rapport au sujet. J'ai tendance à penser, et d'ailleurs c'est ce qui illustre le changement de titre du ministère, qu'il y a deux grandes révolutions qui viennent percuter l'ensemble de nos sociétés, de nos économies, même de nos vies quotidiennes, qui sont la révolution environnementale et la révolution numérique. Et à certains égards, la révolution numérique est beaucoup plus violente dans le quotidien que la révolution environnementale. Elle apporte beaucoup d'opportunités d'accès à la culture, de diffusion du savoir, de gains de productivité si on parle d'économie. Elle peut être également source de perturbations dans le champ social, dans le champ des relations interpersonnelles, dans le champ institutionnel, avec la diffusion par exemple de la haine en ligne, les abus qu'on voit sur Internet, dans le champ économique, bien sûr. Et donc, il s'agit d'accompagner une transition, mais ce n'est pas une question en silo, c'est une question qui vient irriguer l'ensemble des politiques publiques. Et c'est un peu comme ça que je me vois, c'est d'essayer d'accompagner une transition pour faire en sorte que la France et l'Europe, si tant est que l'on réussisse, voilà, puissent s'en sortir au mieux dans cette transition qui a beaucoup d'opportunités, mais il s'agit de se mettre en position de...
Vous citiez l'écologie. Est-ce que ces deux transitions sont parallèles? Est-ce qu'elles se croisent? Est-ce qu'elles sont antinomiques?
Pour moi, elles se répondent. Et j'ai une conviction, c'est qu'il n'y aura pas de transition environnementale sans numérique. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine de la consommation, dans le domaine énergétique de la production et de la consommation d'énergie, par exemple, le numérique est indispensable. Mais bien évidemment, une part du numérique peut être producteur de gaz à effet de serre. Et donc, il s'agit de trouver le juste milieu entre ces deux interactions. Si on reprend une allégorie chère à Bernard Stiegler, qui est mort il n'y a pas très longtemps, en quelque sorte, le numérique est un pharmacon. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un progrès technique, et en même temps, il y a un côté obscur quelque part de ce progrès technique. Et il s'agit, en fait, de se mettre en position prendre tous les atouts du numérique pour réussir la transition environnementale.
Bernard Stiegler, oui, qui est décédé cet été. Un mot sur vos prédécesseurs qui permet de comprendre un petit peu où vous vous situez. Chacun a eu ou a laissé un peu sa trace. Mm-hmm. Comment vous en souvenez? Prenons pour commencer, si on remonte un peu dans le temps, des gens comme Éric Besson, Nathalie Kosciusko-Morizet, François Fillon, tous ont été vos prédécesseurs d'une certaine manière, dans des postes pas très éloignés, un peu différents.
Alors François Fillon, je ne m'en souviens plus pour être totalement honnête. Pour moi, le premier ministre qui avait le numérique dans son titre, c'était Éric Besson. Mais il était ministre de l'industrie et du numérique, qui, en fait, le numérique était venu se rajouter à ce moment-là. Pour moi, la première vraie secrétaire d'État au ministre du numérique, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet. En tout cas, c'est la première dont je me souviens, qui, quelque part, introduit dans le champ institutionnel la sémantique numérique,
2009,
l'attention aux startups, à cette nouvelle économie et aux questions de la donnée, aux questions de en tout ce qui se pose à l'époque, avec d'ailleurs une certaine utopie sur le numérique, sur ce qu'il permet. Je me souviens de la sagesse des foules, de choses comme ça. Bon.
Frédéric Lefebvre sous Nicolas Sarkozy.
Il a été ministre. Enfin, alors ça, je
on,
ne crois pas
on
qu'il
oublie.
Ait été numérique.
Il a un rôle dans ce secteur comme d'autres. En fait, c'est le difficulté, c'est qu'avant qu'il y ait un vrai secrétaire d'État, beaucoup de gens vont avoir un peu. D'ailleurs, même Emmanuel Macron, d'une certaine manière, a ce titre dans son portefeuille. Fleur Pellerin, gouvernement Hollande.
Alors Fleur, que je connais très bien, elle était ministre, comme moi j'étais conseiller de Pierre Moscovici, c'est par ailleurs une amie. Fleur Pellerin, elle laissera une marque très économique et avec
la French Tech.
Toutes les startups connaissent le nom de Fleur Pellerin, ce qu'elle a fait au moment de l'épisode des pigeons. Et je pense que l'écosystème lui doit beaucoup. C'est elle d'ailleurs qui a créé la French Tech, comme vous l'avez rappelé.
Axel Lemaire.
Et c'est Axel qui succède à Fleur,
exactement,
avec Emmanuel Macron ministre.
Ça se passe pas très bien d'ailleurs entre les deux, je crois.
Je vous laisse les commentaires. Je pense que ce que laissera d'abord Axel, c'est sa loi pour une République numérique, qui est d'une dimension plus sociétale, la question de la donnée, etc., etc.
Le rôle de l'État aussi.
Le rôle de l'État plateforme, et avec une réflexion qui allait au-delà de la question économique. D'ailleurs, je crois, mais je ne suis pas certain, que jusqu'à Axel, ce sont des secrétaires d'État à l'économie numérique, et qu'Axel est la première secrétaire d'État au numérique, qui symbolise l'élargissement du champ.
Et puis votre prédécesseur, Mounir Majoubi.
Bah, écoutez, Mounir, j'aurais du mal à me... Enfin, d'abord, c'est un ami. Ensuite, il était secrétaire d'État quand j'étais, moi, conseiller du président. Je pense qu'il a incarné... ce que Macron représente pour le numérique, notamment dans le champ numérique. Lui avait une dimension, une sensibilité sociétale supplémentaire. C'est par exemple lui qui a lancé French Tech Tremplin à destination notamment des jeunes de milieux défavorisés. Donc je pense que son bilan parle pour lui, quelque part. Et pour le coup, le bilan que, si je vais jusqu'en 2022, on laissera en 2022, sera un bilan largement partagé.
Quels sont les livres, les auteurs, peut-être ceux qui intellectuellement vous aident à penser le numérique aujourd'hui? Vous avez des titres que vous aimeriez partager avec nous?
Alors, je lis moins, parce que j'en ai moins le loisir qu'auparavant. Et quand je lis plutôt de la littérature que des livres sur le numérique. Néanmoins, si on prend les quelques livres qui m'ont marqué dernièrement, dans les derniers mois, les dernières années, j'ai cité Timou tout à l'heure sur The Curse of Bigness. Il y a un livre que j'ai trouvé très intéressant, même s'il était assez dur pour nous, en tout cas son auteur est assez dur pour nous, c'est The Revolt of the Public de Martin Gori, qui est vraiment très intéressant dans qui pose un constat très sévère, sans apporter énormément de solutions, mais qui à mon avis est assez juste. Et puis si on... Pour la citer, parce que j'ai échangé beaucoup avec elle cet été, Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism, qui est assez intéressant, qui fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la question. Voilà.
La traduction paraît en français à la fin du mois, deux ans après sa parution aux États-Unis.
Très, très intéressant d'ailleurs, elle est vraiment extrêmement intéressante. Et puis, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, et c'était assez intéressant, sur la question des startups. C'est un peu long, mais c'est intéressant, The Code de Margaret O'Mara, qui raconte l'émergence de la Silicon Valley, ses liens avec l'industrie de défense américaine, etc.
Les universités aussi,
c'est un peu américain, mais je trouve que sur cette question du numérique, les Américains ont une capacité à avoir une réflexion holistique qui est plus grande souvent que les Européens. Et c'est toujours très très intéressant de lire ce qu'ils sont capables de produire.
Je vous propose d'écouter le ministre de l'économie Bruno Le Maire lors d'une audition au Sénat sur la souveraineté numérique. C'était il y a à peu près une année, en septembre 2019.
Je considère que notre souveraineté nationale dépend de notre capacité à bâtir notre souveraineté digitale. Et que la souveraineté européenne dépend aussi désormais directement de notre capacité à construire technologiquement, financièrement, industriellement, notre souveraineté digitale. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, l'évidence est que nous avons pris du retard. Nous avons pris du retard en étant incapables de faire émerger des géants du numérique français ou européens comparables aux géants américains ou aux géants chinois. Nous avons pris du retard en ne finançant pas suffisamment des technologies de rupture qui sont indispensables pour réussir, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle.
À l'instant, Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Une question sur la souveraineté numérique qui est évoquée par Bruno Le Maire et par beaucoup d'autres, au fond. Je me souviens, François Hollande, peut-être même déjà Jacques Chirac, et après Nicolas Sarkozy, tout le monde disait on va créer un Google français. Comment se fait-il que la souveraineté numérique, qui est au cœur du plan de relance économique présenté ce jeudi, dont on va parler dans un instant, comment se fait-il que ce soit si complexe, et quelle est votre vision, finalement, de cette question?
Pour moi, la souveraineté numérique, qui est une partie de la souveraineté technologique, qui est elle-même une condition de la souveraineté politique, c'est quelque part de pouvoir faire des choix en indépendance. Aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus numérique, où les outils que nous utilisons sont de plus en plus numériques, le fait même que l'ensemble de ces outils soient d'origine anglo-saxonne, soumis à des régulations anglo-saxonnes, jusqu'à des conditions générales d'utilisation d'inspiration anglo-saxonne sur Facebook sur, et qu'il n'y a pas d'alternative, fait que nous n'avons pas d'indépendance dans nos choix. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est pourquoi ça prend tant de temps. Ça prend tant de temps parce que pour les Américains, ça a pris du temps. On parlait tout à l'heure de The Code de Margaret O'Mara. Toutes ces entreprises qui ont émergé dans les 20 ou les 30 dernières années et qui sont devenues des géants naissent d'une révolution qui est celle de la Silicon Valley, qui date des années 50 ou 60, dans un cadre de guerre froide, pour suite à, au lancement du satellite Sputnik par les Soviétiques. Donc ça remonte à assez loin.
Et donc, ça avec prend... la constitution de Stanford Exactement. University, des autoroutes d'Eisenhower, du développement des hippies et de
tout à fait.
On the Rock de Jack Kerouac.
Un soft power entier sur le sujet. Mais donc, du coup, ça prend des années de construire des champions industriels.
Nous, donc ça veut dire ça que fait... nous, on ne peut pas dire, hop, on va le faire et ça va naître.
Alors, nous, ce qu'on regarde, si on regarde les chiffres, c'est que les choses vont de mieux en mieux. On a 9 licornes, donc ces entreprises valorisées plus d'un milliard d'euros. On en a eu 5 dans les deux dernières années. Donc il y a un effet de réseau, un effet d'inertie qui fait qu'on accélère.
Quelles sont-elles encore...
Alors, la dernière, c'est Vodou. Vous voulez que je vous les cite toutes?
Oui, ça, c'est ça intéressant. Peu... Non, mais c'est intéressant, je pense.
Alors,
il y a OVH, sans doute.
OVH, VP, Blablacar, Vodou, Doctolib, Miro, Content Square, j'en suis à 7.
C'était pas un piège, hein,
non mais Dataiku n'est pas techniquement une licorne parce que son siège est au...
C'est quoi une licorne exactement?
Une licorne, c'est une entreprise créée après les années 2000 dont le siège est en France et qui est valorisée sur capitaux privés plus d'un milliard d'euros. Je reviens à ce que je disais. Donc il y a un effet d'inertie, mais ça se construit sur le long terme. Aujourd'hui, on voit que la dynamique de cet écosystème numérique français, elle est très bonne. Elle est encore loin de ce que font les Américains ou les Chinois, bien sûr. Mais nous sommes assez optimistes, compte tenu de cette dynamique, que dans les années qui viennent, des entreprises qui ne valent pas 1 milliard d'euros, mais 5, 10, 15, 20 milliards d'euros, émergeront et nous permettront d'être à la hauteur de la compétition. Mais c'est absolument indispensable, parce que juste pour vous donner un chiffre qui est assez étonnant et qui d'ailleurs dit tout de ce qu'il nous faut faire, aujourd'hui, les 40 entreprises françaises, les entreprises du CAC 40, à votre avis, elles ont quel âge en moyenne? Plus de 100 ans. Elles ont été créées il y a plus de 100 ans. Leurs homologues anglo-saxons ont moins de 20 ans. Cet été, Apple est devenue la première capitalisation mondiale. Elle vaut plus à elle seule
que tout le CAC 40.
À la rentrée, il y a eu un changement assez symbolique dans le Dow Jones, donc cet indice boursier américain, qui est que Salesforce a remplacé ExxonMobil, dont on sait l'héritage et la puissance. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que on a deux impératifs. Un, faire émerger nos propres champions, et ça prend du temps. Et de réussir la transition numérique de nos grandes entreprises, parce que je ne pense pas que l'on puisse vendre aux Français un avenir numérique où tout cela s'inscrit dans une dynamique de remplacement. On dit tout ça est bon à envoyer la casse, et donc on va, vous inquiétez pas, dans un monde très agile, on va remplacer tout ça par des startups. Et donc, ça incarne pour moi la difficulté de la transition numérique, là dans son volet économique, qui est de réussir cette transition, mais ne nous absoudrons pas de réussir à faire émerger de nos propres champions, parce que c'est la dynamique de l'histoire et parce qu'on doit pouvoir avoir nos propres champions, parce que je suis persuadé que les entreprises ont une philosophie et une nationalité, et que ce n'est pas la même chose si Google est français ou s'il est américain, ou si Facebook est français ou s'il est américain. Ça ne se décrète pas, c'est une question d'écosystème, d'effet de réseau, de conditions, d'environnement, mais ça prend du temps. Cela étant dit, les chiffres montrent que nous pouvons être optimistes.
Quand on interroge tout un tas d'acteurs du numérique, ce que j'ai fait pour préparer cette émission, les gens vous aiment bien dans l'ensemble. On dit il a du flair, je cite, il a une vision, il a une armature politique, c'est un bon technicien, c'est un bosseur. Mais il a un problème, c'est qu'il pense tout en termes seulement de licorne. Et donc il oublie ou il s'intéresse moins à la transformation sociale, aux questions du numérique, je dirais, à but non lucratif, de l'éducation et de tous ces sujets-là. Qu'en pensez-vous?
Je pense que cette question des licornes et de l'économie est celle qui me stresse le plus. Je pense que si nous ne réussissons pas à faire en sorte de ne pas subir, à la fois à travers la mise à jour de la réglementation et l'émergence de nos propres champions, nous sommes en train de sortir de l'histoire. La France, l'Europe sont en train de sortir de l'histoire. Et je pense que c'est une responsabilité historique des précédents gouvernements d'avoir laissé faire cette évolution économique et que je veux dire, dans ma vie de tous les jours, je ne lis pas des traités d'économie et des traités sur les licornes. Dans ma vie de tous les jours, je préfère lire des bouquins de littérature et m'interroger sur le sens de la vie.
Mais vous n'aimez pas être que sur Facebook, sur Twitter, sur Google, sur Apple, sur Microsoft?
D'ailleurs, j'y suis assez peu à titre personnel. Mais je pense que nous sommes en train de perdre cette indépendance, nous sommes en train de perdre notre liberté et nos institutions, et que tout cela se résume aujourd'hui à cette guerre économique, puisqu'il faut bien parler de guerre, et que si on veut faire en sorte de ne pas se retrouver soit dans le modèle chinois, soit dans le modèle américain, l'urgence, c'est celle-là.
France Culture, 18h58, Soft Power, dans un instant, la suite du grand entretien avec Cédric Coe, secrétaire d'État au numérique, et qui sera interrogé maintenant par Emmanuel Paquet de L'Express et Zoé Sfès de France Culture. À suivre également dans Soft Power à 19h30, l'intellectuel israélien Shlomo Sand pour parler de son livre La fin de l'intellectuel français. Vous pouvez vous abonner au podcast du magazine Soft Power, consacré chaque semaine à l'influence de la France, à l'actualité des industries créatives, du numérique, des médias et à la politique culturelle. Et ce podcast est disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Cédric Coe, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, est notre grand témoin ce soir. Emmanuel Paquet.
Oui, alors je voulais vous présenter trois dossiers. Premier dossier, je vous le cite, c'est le très haut débit pour tous en 2025. Mmh. Deuxième dossier, toutes les entreprises, y compris les TPE, avec un haut niveau d'intérêt pour les et d'utilisation des technologies de l'information grâce notamment au numérique. Et dernier dossier, rendre accessible en ligne la totalité des démarches administratives et accélérer la transformation numérique de l'État. Je voulais vous demander, sur ces trois dossiers, savez-vous d'où ils viennent ?
Alors, je sais que nous en avons parlé, mais j'imagine que vous allez les faire remonter avant ce gouvernement-là.
Exactement. En fait, c'était dans le rapport numérique 2020 de M. Besson. C'était les objectifs pour cette année. Donc aujourd'hui, on voit qu'on en est loin et que dans le plan de relance, il y a quasiment exactement les mêmes termes qui sont utilisés dans le plan de relance numérique, sans déjà faire un bilan de 2011-2020, de l'échec de France Numérique 2020 et du fait que la fibre optique, on n'est pas encore aux objectifs. Il avait un objectif de 70% de couverture. On est à 53%. Donc en fait, on remet de l'argent dans la machine sans commencer par qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'on a loupé, notamment sur la transformation. J'ajouterai un dernier point, même la Cour des comptes a fait un rapport récemment en disant que la numérisation de l'État était une bonne chose, mais qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient très mal déroulées et qu'il fallait en tirer un bilan. Et là, l'impression que ça donne, c'est que dans l'urgence, on est en train d'injecter des milliards, donc 7 milliards, sans tirer un bilan de l'échec des précédents gouvernements dans le numérique.
Alors, les trois sujets sont vraiment très, très différents et très distincts. Sur le premier sujet, qui est celui de la couverture fibrée du territoire, je pense que on a longtemps pâti du fait que l'argent n'était pas à hauteur de l'ambition. Depuis quelques années, et je fais remonter ça avant ce gouvernement, l'argent est à la hauteur de l'ambition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est non seulement le pays d'Europe qui a le plus de kilomètres de fibre, mais la France est aussi celui qui déploie le plus vite la fibre. L'année dernière, c'est 5 millions de prises, donc de locaux, qui ont été rendus raccordables à la fibre.
Alors, on est classé 16e au niveau européen, FTTH Council.
On est classé 16e au niveau... Alors, je pense que c'est pas sur celui-là. Je pense qu'on est classé 16e, et on reviendra sur la numérisation des TPE-PME. Et on doit être classé autour de la 10e place sur la question des gens qui sont effectivement raccordés à la fibre. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que souvent, on apporte la fibre et que le temps que les gens prennent l'abonnement, puisque pour être raccordé, il faut prendre un abonnement, ça prend un peu de temps, mais on voit une accélération. En tout état de cause, sur la question de qui est le pays le mieux fibré du monde, d'Europe, c'est nous. Et le pays qui tire le plus vite la fibre rapportée à sa population, c'est nous aussi. C'est-à-dire, l'année dernière, pour vous donner un autre chiffre, sans vous abreuver, c'est 19 000 locaux qui étaient connectés par jour. 19 000 par jour. Personne ne fait ça. Et donc, nous, on a remis dans le plan de relance 240 millions d'euros, ce qui nous permet de dire, ce qui sera le cas, en 2025, 100% du territoire sera fibré. Et nous avons même, quelque part, en train de travailler à la notion de service universel, ce qui permet de concrétiser pour les gens ce que ça veut dire. Aujourd'hui, vous avez une espèce de droit au raccordement à l'eau, l'électricité, le téléphone. Eh bien, on veut faire la même chose pour la fibre. Et donc, je vous invite à regarder vraiment les comparaisons internationales. Sur la fibre, peut-être qu'on est un peu en retard sur ce qu'avait dit prévu Éric Besson, on est en retard de 5 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui tire plus vite que nous, et grosso modo... Si on regarde les autres pays, on est dans les top 5, top 3 ou le top 5 mondial. Donc je pense que les choses sont plutôt bien engagées. Deuxième élément, la numérisation de l'État. La vérité, c'est que la numérisation de l'État, elle se passe plutôt bien s'agissant des démarches administratives. Aujourd'hui, je crois que c'est 70% des démarches administratives qui sont numérisées. Mon sentiment, c'est que plus important encore que numériser plus, on a un problème de qualité. C'est que tout numériser, enlever les services publics physiques, enlever les numéros de téléphone, c'est, on y reviendra peut-être sur la question de l'infrastructure, faire monter la colère et l'incompréhension d'une partie des Français. Et je pense,
on l'a vu avec le chômage partiel.
Et je pense que pour nous,
c'est rompre l'égalité des contribuables, en tout cas des concitoyens. Il y a une rupture d'égalité très nette qui est même anticonstitutionnelle concrètement.
Oui, mais enfin, disons qu'en tout cas, on a mené la numérisation, mais là encore, ça dépasse le gouvernement à marche forcée depuis plusieurs années. Je pense qu'on a oublié, et qu'on on est un peu allé trop vite, et que deux, on a oublié une partie de la relation aux citoyens. Ça peut paraître aberrant, mais c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que, depuis un an que je suis arrivé, on a moins mis la pression sur la question du nombre que sur la question de la qualité. Par exemple, ça peut paraître tout bête, mais réinjecter des numéros de téléphone. Réinjecter des numéros de téléphone. Bon. Troisième élément, où là, honnêtement, l'ensemble des gouvernements depuis 10 ans se cassent un peu les dents, et sur lesquels on est assez mauvais. Encore faut-il savoir si c'est à l'État de réussir de le faire, c'est la question de la numérisation des TPE-PME. Nous sommes effectivement 16e sur 27. On a du mal à progresser, on a 50% de moins de numéreux, enfin le taux de numérisation de nos TPE-PME est la moitié de celui des Italiens par exemple.
Excusez-moi, je vous coupe, mais vous ne le mettez pas en relation avec l'ultra-puissance d'Orange qui a 70% de part de marché sur le marché entreprise et qui en fait, il n'y a pas de concurrence sur le marché des télécoms aujourd'hui.
Je pense que ce n'est pas le sujet des télécoms, je pense que le sujet, faut dire, moi j'ai travaillé dans l'industrie, le fournisseur, donc j'ai voyé mes sous-traitants parce que pour sa France ça allait plutôt bien, le fabricant de pistons fin fond de la Dordogne, qui a une entreprise de 200 personnes, c'est pas parce que l'État lui dit qu'il faut se numériser qu'il va se numériser. Et il y a 3 millions d'entreprises en France, je pense que le sujet, c'est qu'il faut d'abord qu'elles y voient leur intérêt. C'est vrai pour le commerce de centre-ville, c'est vrai pour la PME de pistons, c'est vrai pour la TPE qui fait de la maçonnerie. Et je pense qu'en l'espèce, le confinement a été agi en quelque part comme un révélateur. Par exemple, moi j'étais à Alès cet été, et donc la municipalité a mis à disposition de ses commerçants pendant le confinement une plateforme d'e-commerce pour ses habitants, qui a très bien marché. Je pense que c'est un exemple concret du fait que face à l'émergence de l'e-commerce, face à l'émergence d'Amazon, si on veut avoir des commerces de centre-ville qui survivent, eux aussi doivent être capables d'avoir ce double canal à la fois physique et en ligne. Et juste pour revenir sur la question de l'inclusion numérique, au début, puisqu'on parlait des services publics, vous aurez peut-être noté que dans ce plan de relance, on fait un effort absolument historique sur cette question des usages. Le dernier plan que j'avais moi-même présenté pour l'inclusion numérique du gouvernement était 15 millions d'euros. Là, on met 250 millions d'euros sur la table sur les 2 ans à venir pour plus de gens pour former et plus de lieux pour former. Parce que évidemment, cette question de l'inclusion numérique, elle est au cœur de ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, dans mes priorités, mais c'est quelque chose qui est parfois un peu moins vu, oui, il y a cette question de la French Tech, et j'ai eu l'occasion d'expliquer pourquoi, mais je pense que c'est très difficile de tenir ce discours aux Français si dans leur quotidien, le numérique, c'est le vecteur ou le syndrome de leur abandon. Et donc, je pense que oui, il faut continuer à investir dans nos startups, mais on va dire que l'autre bout de l'accorder, si on peut s'exprimer comme ça, c'est qu'il y a besoin que le numérique profite à tous et qu'on embarque tout le monde dans le numérique, faute de quoi on rajoute une fracture à d'autres fractures.
Juste une précision, vous avez dit réinjecter des numéros de téléphone, ça veut dire quoi concrètement? C'était pas très clair pour certains auditeurs.
Ça veut dire que quand vous allez sur un site, je pense que tout le monde l'a vécu, vous allez sur un site, vous essayez de commander quelque chose ou de faire une démarche, ça marche pas. Pourquoi? Par exemple,
on sait pas pourquoi,
on vous dit,
mais
quel est votre statut? Êtes-vous en activité ou au chômage? Vous êtes une femme au foyer. Je prends
typiquement. Ouais.
Typiquement. Et la liste déroulante pour passer à l'étape suivante, c'est que vous en avez que deux. Ben vous êtes ni dans l'un ni dans l'autre.
Et vous n'y
a pas de numéro de téléphone. Ben là, vous vous retrouvez. Et on vous dit.
Et si vous montez après, vous perdez votre plan d'emploi parce que vous n'avez pas répondu à la bonne.
Eh ben, il faut aller à la préfecture. La préfecture, elle est à 40 km et elle est ouverte le mardi de 9h à 15h. Donc, le sujet, c'est qu'il faut en fait penser à partir des citoyens.
Emmanuel Paquette.
Oui, il y a un grand dossier en cours aujourd'hui social. La question est de savoir si est-ce que le plan de relance peut aider à cette catastrophe. C'est Nokia avec un plan social massif. À Lannion, plus de 1200 personnes qui vont être touchées par ce plan social. Est-ce qu'aujourd'hui, le plan de relance peut, d'une manière ou d'une autre, aider cet industriel-là, qui est quand même en pointe sur la 5G avec Ericsson, à éviter ces licenciements dans les télécommunications?
Alors, ça précédait le plan de relance. Effectivement, il y a des difficultés de Nokia, qui sont d'ailleurs tout autant des difficultés économiques que des difficultés stratégiques. Il faut savoir que Nokia historiquement est issu de la fusion entre Alcatel et Lucent, qu'on n'a pas choisi entre les technologies. Enfin, je ne vais pas revenir sur cette histoire-là. Et donc, il y a un plan de licenciement, je crois, qui doit être de 800 personnes en région Île-de-France et 400 personnes à Lannion. En tout cas, il faudra vérifier les chiffres, mais je pense que c'est cela. Le gouvernement, notamment Agnès Pannier-Runacher, se préoccupe du sujet. Nous avons des discussions avec les industriels locaux et les industriels du secteur, pour ne pas les citer. Et bien évidemment que nous souhaitons conserver ce savoir-faire, notamment parce que c'est du savoir-faire de pointe dans un sujet qui est celui des télécommunications et notamment de la 5G, qui est absolument stratégique pour l'avenir industriel de la France. Et il y a une partie du plan de relance, notamment dans ce que nous appelons les marchés clés, pardon, ce terme technique, c'est-à-dire dans les technologies clés, qui sera consacrée aux technologies de communication. Et il y a une partie également du milliard qui est consacré à la relocalisation dans des industries, qui est qui financera des parties dans la télécom. Vous dire exactement comment cela se passera, je ne sais pas, c'est plutôt Agnès Pannier-Runacher qui suit le sujet, mais en tout cas, bien évidemment que cette situation nous préoccupe.
Zoé Sfez.
Alors, pour aller plus loin dans cette question du plan de relance, je vais faire un peu comme Emmanuel Paquette, une question avec trois entrées. Vous misez...
C'est très français, les plans en trois parties.
C'est très Sciences Po, on a surtout envie que vous répondiez à toutes ces questions. 2,2 milliards d'euros iraient aux technologies de rupture dans ce fameux plan de relance. Ce qui pose du tout une foule de questions dans cet écosystème français. Ce que vous appelez des technologies de rupture, c'est par exemple l'informatique quantique, le cloud ou l'intelligence artificielle. On en revient là à des questions de souveraineté. Est-ce qu'aujourd'hui, en dépit du fait qu'on a des licornes, qu'on a des entreprises en force qui travaillent sur le cloud, on est, y compris sur certains services de l'État, encore en train d'utiliser les clouds de Microsoft? Donc, à quoi ça sert d'avoir des licornes ou d'avoir des entreprises fortes si finalement, en France, on a du mal à s'en servir? Première question. Deuxième question, sur la question très concrète de l'intelligence artificielle. En France, on a des start-up qui sont plutôt bonnes en biométrie. Je sais que vous avez longtemps été partisan, finalement, sur la, par exemple, la reconnaissance faciale, d'expérimenter avant de légiférer. Or, il semblerait que dans le monde entier, y compris la ville de San Francisco, qui a donc renoncé à la reconnaissance faciale dans sa propre ville, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire de San Francisco que c'est une ville technophobe, c'est toujours pas le cas. Où vous en êtes de cette question?
Alors, il y a des questions d'ordre différent. D'abord, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans le plan de relance? Effectivement, on consacre 2,3 milliards d'euros aux technologies critiques du numérique. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une compétition mondiale sur certaines technologies, l'intelligence artificielle, le quantique, la cybersécurité, le cloud, dans lequel nous ne pouvons pas être déclassés. La semaine dernière, les Américains ont encore annoncé investir 1 milliard d'euros dans la recherche en informatique quantique. On sait que, à l'image de ce qu'est l'intelligence artificielle, le quantique peut bouleverser les équilibres économiques. Et donc, on considère que on a la matière première en France pour être très bon. C'est vrai dans le quantique, notamment en termes de recherche. On n'est pas déclassé par rapport aux Américains ou aux Chinois. Et on veut investir l'argent pour conserver les emplois, la souveraineté technologique, l'indépendance dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier élément. Vous avez posé une question sur le cloud, mais ce n'est pas sans lien sur la question des entreprises. Qui investit aujourd'hui près de, je ne sais pas, allez, je vais dire un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est à peu près l'ordre de grandeur, 40 milliards à 50 milliards d'euros chaque année dans le cloud. Ce sont les GAFA. Et donc, si vous, jamais, qui que ce soit, ni Orange, ni l'État, ni les startups françaises,
ni OVH,
ne sera capable d'investir autant dans le cloud. Donc aujourd'hui, pas sur toutes les technologies, mais nous n'avons pas d'acteur qui a la même éventail de services, le même qualité de service internationalement, parce que par ailleurs, des entreprises internationales cherchent une réponse internationale. Donc, la stratégie de long terme, c'est de dire que si on veut, sur ces technologies, être capable d'investir autant que les Américains, il faut avoir des entreprises aussi grosses que les Américains. D'où la réflexion sur la technologie de la French Tech, d'où l'importance de la French Tech. C'est que ce seront demain nos champions qui investiront autant. Et donc, nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'être aussi forts que les Américains et les Chinois sur toutes les technologies qu'eux, parce que nous n'avons pas les mêmes acteurs. Les Américains ont les GAFA, les Chinois ont les ABATX. Et donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, c'est vrai qu'on est capable de faire aussi bien, même éventail de services, même qualité de service international, que les Américains dans le cloud. C'est faux. C'est
faux. Du coup, on se spécialise.
Et donc, non, du coup, on dit, c'est pas à l'État d'investir et de choisir. On peut, à certains endroits, et d'ailleurs très très majoritairement, l'État se fournit chez des Français. Il y a eu un sujet qui a fait beaucoup de débat sur les data Ouvrons, si vous voulez, on fera un truc spécial cloud parce que ça nécessite vraiment de rentrer dans le détail.
Par exemple, JO 2024, c'est Alibaba Cloud. C'est les Chinois qui vont gérer la ville de Paris.
La ville de Paris.
Et la DGSI, c'est Palantir pour la lutte antiterroriste.
C'est pas, enfin, vraiment.
C'est pas des GAFA, pardon.
Mais... Non, mais je propose que on fasse un sujet dédié à ces sujets-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Non, mais ça pose des vraies questions parce que vous parlez tout à l'heure de souveraineté économique et de souveraineté politique. Or, c'est quand même des endroits d'enjeux, évidemment. Non, mais cruciaux,
si votre question, c'est de savoir, est-ce qu'on est en retard sur certains sujets? La réponse est oui. Et donc, est-ce qu'on doit investir et créer l'écosystème pour faire émerger des acteurs qui vont nous permettre de ne plus être en retard d'ici 10 ans, d'ici 5 à 10 ans, la réponse est oui aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la même qualité de service? Non, c'est pas vrai. Et c'est vrai dans l'intelligence artificielle, c'est vrai notamment dans le cloud, mais mon objectif, c'est que d'ici 10 ans, on ait la capacité d'être indépendant. Mais c'est pas vrai qu'on le fera du jour au lendemain. Tous ceux qui vous disent ça, vous mentent.
Alors justement, on va revenir sur la reconnaissance faciale, parce que par ailleurs, c'est une position que vous tenez qui va un peu dans le sens de ce que vous dites, mais par ailleurs, comment est-ce qu'on garantit aujourd'hui que cet argent public qu'on investit, vous l'avez dit, il n'y a pas que de l'argent public, comment est-ce qu'on garantit que ces fameuses entreprises sur lesquelles on mise sur le long terme, elles ne vont pas être achetées entre-temps? Parce que c'est aussi le problème majeur, et on en parle de cet écosystème de la tech française. La BPI France fait un boulot que tout le monde saluera, mais néanmoins, dès qu'une entreprise fonctionne plutôt bien, elle a tendance à être achetée par des acteurs américains.
Non,
et donc, pas forcément.
Des exemples.
Quelle garantie on peut inclure? Est-ce qu'en l'occurrence, dans ce plan de relance, il y a cette question?
D'abord, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez, prenons le Next 40. Il n'y en a pas une seule qui s'est vendue à un acteur américain pour le moment.
Enfin, il y a eu Price Minister à une époque, il y a eu Deezer en partie.
Mais Deezer, pas du tout. Deezer, ils ont leur siège en France. Ils ont des investisseurs anglais.
Russes.
Mais ils sont anglais d'origine, russe, si vous me permettez. Ouais. Mais tout le monde a des investisseurs américains. Vous croyez que Accor ou les grandes entreprises françaises qui sont cotées, ils sont majoritairement sur des acteurs? Non, nous sommes dans une économie mondialisée. Et d'ailleurs, je vais vous dire les choses très clairement. Nous avons besoin de beaucoup plus d'investissements internationaux en France si on veut être plus fort. Mais si vous regardez ce qui se passe à l'étranger, Dassault Systèmes, l'année dernière, a racheté Medidata. Medidata, c'est le premier acteur de la santé numérique aux États-Unis pour 5 milliards d'euros. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Il y a certaines technologies sur lesquelles je ne souhaite pas que nos acteurs soient rachetés par des acteurs étrangers, parce qu'elles sont des technologies critiques.
Ok, vous ne souhaitez pas, mais est-ce que vous avez les moyens de faire en sorte que vos souhaits soient réels?
Pour les sujets stratégiques, on a ce qui s'appelle le dispositif investissement étranger en France qui nous permet de bloquer une acquisition.
Qui
n'est pas souvent activé parce que la plupart du temps, il n'a pas besoin d'être activé.
On l'avait fait pour Dailymotion, par exemple.
Non, c'était pas exactement ça qui s'était passé. C'était une action d'Arnaud Montebourg. Non, ce que
contre,
je veux dire, c'est qu'il ne faut pas
le
voir.
Par Yahoo.
Par ailleurs, il ne faut pas voir le rachat de certaines entreprises françaises comme un problème pour l'écosystème.
C'est un problème si c'est stratégique.
C'est exactement. C'est souvent très bien parce que ça permet aux investisseurs qui ont investi de retrouver leur mise et de réinvestir dans l'écosystème. Sur certains, ça peut être un problème, mais en règle générale, il faut accepter que nous sommes dans une économie mondialisée. Et d'ailleurs, si vous regardez, parce que je me souviens, pas seulement dans le numérique, mais dans l'économie globale, les groupes français achètent largement plus, ça doit être deux ou trois fois plus, qu'ils ne sont achetés. C'est-à-dire, l'économie française rachète beaucoup plus à l'étranger qu'elle n'est rachetée. Or, on se concentre systématiquement sur les entreprises françaises qui sont rachetées.
Les exemples.
Mais grosso modo, nous sommes beaucoup plus acheteurs que vendeurs. Et donc, il faut se concentrer sur ce qui peut poser problème, certaines technologies particulièrement importantes pour la défense nationale, et considérer que nous avons besoin de plus d'investissements étrangers.
Et sur la reconnaissance faciale, justement, parce que je sais que vous avez fait partie des gens qui ont dit qu'il fallait que, justement, les start-up françaises puissent travailler, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, en termes de réglementation, à chaque fois, c'est des stops de la CNIL, des stops d'à peu près quasiment toutes les cours de justice en France, en Europe et aux États-Unis.
Non, c'est pas vrai, honnêtement, ce que vous dites n'est pas vrai. Si vous regardez les justifications, la CNIL, par exemple, a autorisé sous certaines conditions l'expérimentation d'Alicem. Et donc, la question est celle de la proportionnalité. Est-ce que je souhaite une généralisation de la reconnaissance faciale partout, tout le temps? Non. Est-ce que je considère que dans certains cas, sous, par exemple, le contrôle d'un juge, la reconnaissance faciale peut être utilisée? Je pense qu'il ne faut pas l'exclure a priori.
Mais c'est le problème aujourd'hui, c'est que contrôle d'un juge...
La première chose, c'est que pour savoir s'il faut l'utiliser, il faut savoir les problèmes de faux positifs, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, mais le sujet est fermé. Et donc, je considère que pour pouvoir se prononcer, c'est ce que j'ai dit, il faut qu'on fasse des expérimentations et qu'ensuite je suis pour une utilisation extrêmement contrôlée, notamment par le juge. Mais le rejet ex ante, sans savoir si ça marche pas, dans tous les cas, les conditions, me semble d'abord assez illusoire, parce que je ne sais pas si vous déverrouillez votre iPhone ou votre Samsung par la reconnaissance faciale, mais en tout cas, voilà. Et donc je pense qu'il faut connaître la technologie et la réglementer dans cet ordre-là.
Parmi les secteurs stratégiques, quid de la santé? Il y a notamment tout un projet de Health Data Hub. On en est où? Et est-ce que vous considérez que c'est des secteurs, ça va nous amener à Stop Covid brièvement, c'est des secteurs qu'il faut absolument garder sous souveraineté française?
Alors, c'est un bon exemple du sujet du cloud. En règle générale, les données de santé sont plutôt stockées chez des acteurs français. Il y avait, qu'est-ce que le Health Data Hub, l'entrepôt des données de santé? C'est... à ce stade, l'expérimentation, en tout cas le début de la mise en œuvre, d'un raccordement des entrepôts de données de santé pour faire en sorte qu'on fasse tourner des algorithmes d'intelligence artificielle sur les données de santé pour découvrir et pour aider à la recherche médicale et à la découverte de nouveaux traitements. Par exemple, pendant le Covid, ça a permis de découvrir, de confirmer ou découvrir un certain nombre d'interactions médicamenteuses, de phénomènes de comorbidité. Il y a un peu plus d'un an et demi, une consultation qui a été menée de divers acteurs, dont les acteurs français, pour une première phase, qui était une phase expérimentale qui continue encore aujourd'hui. En disant, voilà, on a besoin de telle fonctionnalité, est-ce que vous les avez au jour d'aujourd'hui? Le seul qui répondait à ces critères était Microsoft Azure. Et donc il a été décidé, pour partir vite et avoir rapidement des solutions qui ont servi, je le rappelle, pendant le Covid, de commencer en expérimentation sur Microsoft Azure. Maintenant, est-ce que ça a vocation à rester toute la vie sur Microsoft Azure? Pas forcément. Et donc, il y aura, dans les mois qui viennent, un appel d'offres qui permettra à chacun de candidater. Maintenant, est-ce que j'ai des inquiétudes pour les données qui sont stockées sur Microsoft Azure? Non. C'est-à-dire que je considère que les garanties juridiques ou techniques qui ont été prises sont largement suffisantes pour que ces données soient en sécurité.
Une question rapide sur le Stop Covid, on ne va pas faire toute l'émission dessus, vous en avez parlé dans beaucoup d'émissions. Il y a eu plusieurs problèmes, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de souveraineté, un problème de solutionnisme un peu facile qu'on a pensé pouvoir résoudre avec cette application, et puis un problème d'assaut INRIA ou des chercheurs un peu pas très habitués à lancer des gros projets se sont vus chargés de ça avec les difficultés qu'on a vues. Est-ce que vous changeriez les choses si vous aviez à refaire ce projet? Et pour poser une question positive, est-ce que finalement, malgré tout, c'était pas bien d'expérimenter quelque chose au cas où un jour on ait par exemple une épidémie beaucoup plus grave avec un virus encore plus agressif et ça nous prépare un peu à ce que pourrait être la situation à venir?
Alors, je ne vais pas reprendre chacun de vos points sur lesquels je pourrais
parler longtemps. Ouais.
Non, est-ce qu'il fallait le faire? Oui. Est-ce qu'il fallait le faire la manière dont on l'a fait, c'est-à-dire indépendamment d'Apple et de Google? Je le crois profondément. Et d'ailleurs, je trouve complètement fou que personne ne trouve rien à redire aujourd'hui au fait que Apple et Google vont généraliser, d'ailleurs hors la France, leur système de traçage de contacts à tous les pays. Sachez que nous ne savons rien de ce qui se passe dans les couches sous-jacentes. Au moins avec les Français, on peut faire plein de reproches sur ce qui se passe, mais vous avez la CNIL et vous avez le comité spécial qui sont venus voir, qui ont ouvert le capot et qui sont capables de dire si c'est bien ou c'est pas bien.
Ce que vous dites, excusez-moi juste pour, c'est que dans les mises à jour d'iOS, il va y avoir par défaut une fonction de traçage sans
exactement.
Avoir installé une application.
Et, voilà, en tout cas, exactement, ça c'est déjà le cas et c'est facilité pour les prochains gouvernements. Enfin, on y reviendra, mais si on reprend cette question de l'oligopole, je trouve qu'on peut trouver tous les défauts du monde à Stop Covid. Le fait que Apple et Google aient imposé leur solution sur un sujet sanitaire à l'ensemble des pays européens, sauf la France, je pense que...
Mais paradoxalement, Apple ne voulait pas qu'on allume Stop Covid à distance et vous vouliez. Donc Apple était pratiquement, dans ce cas-là, une sorte
non,
de défenseur.
Apple, alors vraiment, ça nécessiterait
un Stop Covid spécial.
Un soft power dédié. Apple nous a contraints sur la solution, enfin voulait nous contraindre sur la solution technique.
Et comme l'a fait avec la plupart des pays européens qui ont accepté de le
exactement,
faire.
Exactement. Mais nous, on a considéré.
Mais nous, ça n'a pas marché, sujet. Alors que les autres, ça a marché.
Ah, c'est pas vrai. Alors là, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, d'abord, est-ce que ça marche? Techniquement, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Est-ce que les Français l'ont suffisamment adopté pour que ce soit très efficace? Insuffisamment, c'est sûr. Est-ce que, vous regardez à côté de chez nous, à part l'Allemagne et la Suisse, il n'y a personne qui peut dire que ça a été largement adopté. Donc, je considère que. Peut-être que nous aurions dû être plus pédagogues. On se rend compte, par exemple, que les gens ne se rendent pas compte que s'ils ferment l'application, ça marche, etc. Peut-être que nous aurions dû accentuer la communication parce que ce qu'on voit dans les études, c'est que les gens ne comprennent pas très bien, en fait, à quoi ça sert. Et donc, je regrette cet état de fait parce que je pense que cette application pourrait être utile particulièrement en ce moment. Maintenant, est-ce que je regrette de l'avoir fait? Non. Je pense d'ailleurs que si nous ne l'avions pas fait et que tout le monde l'avait sur la table, on nous en ferait le reproche. Est-ce que je regarde de la manière dont nous l'avons fait indépendamment de Google et d'Apple ? Non plus. Est-ce que la situation actuelle me satisfait ? Non plus. Et je pense que d'ailleurs, le risque n'est pas tant pour Stop Covid, parce que quelque part, c'est un outil qui n'est pas... On n'a jamais dit que c'était l'alpha et l'oméga, on a dit que c'était un outil sur la table. Ce qui m'inquiète plus, c'est que cela pourrait servir de contre-exemple à l'avenir pour d'autres solutions technologiques dans des situations sanitaires, et qu'on aurait tort de se priver de ces outils, et donc il ne faut pas le prendre. Enfin, les difficultés de Stop Covid ne doivent pas nous empêcher demain de continuer à innover.
Emmanuel Paquette.
Alors, tant qu'on est sur le Covid, petite question. Il y a eu un papier dans le New York Times ce matin, sur lequel, en fait, il y aurait eu des tentatives d'espionnage de différents pays, Russie, Chine, très probablement Iran, non pas sur les laboratoires qui cherchent un vaccin au Covid, mais sur les universités qui travaillent pour les laboratoires, avec des tentatives d'intrusion assez sophistiquées. Ma question était de savoir si vous aviez eu des alertes de ce point de vue-là, puisque la cybersécurité fait partie aussi du champ du plan de relance, des tentatives d'intrusion de pays sur de la recherche autour du vaccin.
Alors, je n'ai pas d'éléments en ma possession à l'heure actuelle. Ce dont on s'est aperçu, il y a eu des attaques, mais qui ont été publiques hein, pendant le Covid d'hôpitaux, mais qui étaient plutôt le fait de mafias ou
oui, c'était pas la recherche.
Exactement. Je crois de mémoire qu'il n'y a pas eu d'activité particulière pendant le Covid, notamment sur la désinformation, enfin en tout cas plus poussée. Oui, certains pays, on le sait, sont assez actifs, mais en tout cas, voilà. Je n'ai pas d'éléments sur ce que vous évoquez.
Une question sur le Conseil national du numérique pour sortir de Stop Covid. Est-ce que c'est Stop Conseil national du numérique ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que vous voulez un petit groupe d'experts qui vous conseille ? Est-ce que vous voulez quelque chose avec des sociologues et la société civile ? Ou est-ce que finalement, il ne faut pas tout simplement en faire un groupe du Conseil économique et social et environnemental, le CESE, qui pourrait évoluer vers un parlement de la société civile ? Alors pourquoi pas également le numérique ?
Ce sont de bonnes questions que je me pose actuellement. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que le Conseil national numérique continuera. Je pense que la question peut se poser de doit-il continuer dans le même format, avec les mêmes thèmes. Disons que la situation d'aujourd'hui est très différente du jour où il est né, il y a quelques années, sous Nicolas Sarkozy, je crois, où là, pour le coup, le numérique était encore quelque chose d'assez ésotérique pour la société et les institutions, et il s'agissait de servir d'aiguillon, quelque part, pour faire progresser la prise de conscience numérique. Je pense toutefois que compte tenu de l'importance du numérique dans nos vies quotidiennes, notre économie, nos institutions, ce n'est pas le moment de supprimer le Conseil national du numérique. Maintenant, la réflexion est ouverte, et d'ailleurs j'ai reçu les membres jeudi dernier pour discuter et réfléchir avec eux, on le fait également avec d'autres, pour savoir quel sera le profil du prochain Conseil national du numérique. On a un peu tardé dans cette réflexion, notamment à cause du Covid, et puis du timing de la renomination qui a mis les vacances au milieu, pour le dire de manière très contingente. Mais voilà, il y aura un Conseil national du numérique, la réflexion sur sa forme, ses missions et son objet est ouverte.
Sur ses missions, notamment politiques, vous parliez tout à l'heure de la fracture numérique, et ça fait partie des endroits un peu importants du plan. Aujourd'hui, il y a des outils, mais ils sont assez... en fait, c'est souvent des outils... Il y a Emmaüs Connect, il y a quelques acteurs qui sont quand même assez forts aujourd'hui. Vous avez prôné, et on vous encourage, le retour du numéro de téléphone. Concrètement, comment est-ce qu'il va être distillé cet argent sur 2 ans ? Il va aller à qui ?
Et alors, très concrètement, il va être utilisé pour des gens et des lieux. En fait, la question de la fracture numérique se heurte toujours à 2 choses. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de gens pour former, qui sont eux-mêmes pas suffisamment formés. C'est-à-dire que former quelqu'un au numérique, on peut penser que c'est du système D et que chacun le fait avec sa grand-mère, mais en fait, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier, ça prend du temps, parce que former quelqu'un, l'autonomiser, parce que c'est ça le fond du sujet, ça prend 10, 20, 30, 40, 50, peut-être 100 heures. Voilà. Et donc, on se heurte toujours à la question des gens et des lieux. Parce que, en fait, quand on vous dit il faut que vous fassiez former au numérique, il faut quelqu'un qui vous forme quelque part.
Et on parle quand même, c'est vos rapports qui le disent, 1 Français sur 6 n'utilise pas Internet et plus d'un sur 3 manque de compétences de base. Absolument. C'est dans votre communiqué de presse.
Oui, c'est l'INSEE qui donne ces chiffres. Je pense que c'est un sujet de société absolument majeur parce que la question de la fracture numérique, ce n'est pas seulement ne pas savoir déclarer ses impôts en ligne ou ne pas savoir faire un WhatsApp avec ses petits-enfants, c'est une question de compréhension du monde. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on regarde les sessions d'inclusion numérique, quand vous avez un médiateur numérique qui commence à travailler avec quelqu'un sur déclarer ses impôts en ligne, très vite les questions qui viennent, c'est la question des données, la question des parents et des écrans, la question des fausses informations. Et donc, en fait, le fond du sujet, c'est de vraiment donner la capacité aux gens d'avoir accès aux services de base, mais également d'être des citoyens à part entière.
Une dernière question, Emmanuel Paquette.
Oui, on a peu parlé de la 5G, mais c'est le prochain grand agenda.
Alors, c'est le prochain soft power, si vous voulez.
Donc les enchères ont bien les bien lieu normalement le 29 septembre, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais et en l'occurrence, il y a toujours aujourd'hui des questionnements sur le côté énergivore de cette technologie, oui ou non, le côté impact sur la santé, avec aujourd'hui des études qui sont attendues au niveau de l'ANSES pour l'année prochaine. Je voulais savoir par rapport à tout ça, est-ce que l'État n'a pas réagi trop tard en lançant des consultations là il y a quelques mois? En tout cas, c'est ce que disent les opérateurs télécoms, que ils ont averti à plusieurs reprises l'État, que l'État a mis du temps à prendre la mesure du sujet, en tout cas au niveau sociétal, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec au moins 3 consultations publiques qui sont lancées, mais très tardivement.
La 5G en 50 secondes.
Voilà. 50 secondes, c'est vraiment très court. Écoutez, je pense que tout ça n'a pas été fait en chambre. Il y a notamment des comités de concertation qui ont été menés, les associations ont été reçues. Nous avons par ailleurs un retard au niveau international qui est assez important. Moi-même, ma volonté, c'est de continuer la discussion et la pédagogie, parce que le sujet ne se ferme pas avec les enchères sur la bande 3,5 giga, parce qu'on sait que des questions se posent sur 3,5, des questions se posent sur 26. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir ici faire un débat spécial 5G.
Mais en tout cas, invitations qu'on doit vous lancer.
Effectivement, mais les sujets sont passionnants. Non, effectivement, je vous confirme que nous tiendrons la date de fin septembre. Ma volonté, c'est de faire probablement plus de pédagogie que ce qui a été fait. Là, je pense qu'il y a un sujet d'incompréhension. D'abord sur l'utilité, avant de savoir s'il y a des questions sanitaires ou environnementales. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de consulter et puis de discuter.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Merci infiniment Cédrico, vous êtes secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci d'avoir été notre invité ce soir et donc on prend rendez-vous Soft Power, 4 nouvelles émissions avec vous dans les mois à venir.
La durée permet d'entrer dans les
détails. On a quand même traité de nombreux sujets. Bon, on vous remercie énormément d'avoir vous êtes prêté à cet exercice complexe avec des questions et des sujets qui sont pas faciles effectivement à traiter en quelques minutes. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous. Merci à Emmanuel Paquet de l'Express, de OSFS, de France Culture d'y avoir contribué. Pour aller plus loin, les références, les sujets, les livres d'ailleurs dont vous avez parlé durant cette émission, les musiques aussi qu'on a diffusées, bien d'autres informations sont à retrouver sur le site de France Culture, sur la page de l'émission. Dans un instant, la suite du magazine d'industrie culturelle et du numérique avec le Village Global, notre nouvelle séquence internationale autour des idées et de la culture. Ce soir, on parle d'un ouvrage, celui de Shlomo Sand, consacré à la fin de l'intellectuel français. Mais juste avant, musique, je vous propose d'écouter le morceau d'abord Alléluia de Leonard Cohen et aussi My Future de Billie Eilish, les deux qu'on va écouter l'un après l'autre à la fois en même temps, car ces deux morceaux magnifiques ont été utilisés par la Convention démocrate et par la convention républicaine récemment aux États-Unis, mais je dirais presque à front renversé. Billie Eilish d'une part, qui est devenue une figure incontournable de la musique pop aux États-Unis, a livré sur la scène de la convention démocrate un très beau live avec sa nouvelle chanson My Future, un titre taillé pour l'événement. Cette chanson a fait également partie d'ailleurs de la playlist de l'été de Barack Obama. À la convention nationale républicaine en revanche, qui a officiellement investi la semaine dernière Donald Trump dans la course à l'élection présidentielle, le Parti républicain a utilisé la chanson mythique de Leonard Cohen, Alléluia. Le problème, c'est qu'elle a été utilisée sans le consentement des ayants droit de Leonard Cohen, qui avait d'ailleurs spécifiquement interdit aux républicains de l'utiliser. L'avocat des ayants droit estime que le Parti républicain a fait, je cite, une tentative effrontée de politiser et d'exploiter cette chanson emblématique. Un recours devant la justice est envisagé.
I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had to go.
France Culture, 19h33.
Soft Power, le village global.
Le village global, nouveau segment, nouvelle séquence internationale centrée sur les débats d'idées et la culture au niveau global, car le monde est un village global. Ce soir, notre invité en direct par téléphone de Tel Aviv est Shlomo Sand, qui publie cette semaine en poche La fin de l'intellectuel français de Zola à Houellebecq. C'est une sortie en poche, donc un peu mise à jour, en tout cas une réédition aux éditions La Découverte. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Alors j'aime bien votre livre pour toute sa première partie qui retrace l'histoire de l'intellectuel français de Zola à Camus en passant par Sartre ou Malraux, mais aussi Foucault ou Paul Nizan. Mais alors on va se concentrer sur votre seconde partie, faute de temps, hein, on va se concentrer sur la partie la plus contemporaine, sur Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut, les gens de Charlie Hebdo ou encore Éric Zemmour. Shlomo Sand, qui vous êtes professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv, comment vous jugez ce qu'est aujourd'hui, ce qui est devenu l'intellectuel français?
Avant, je dois souligner que j'ai tombé amoureux très jeune à la intelligentsia, aux intellectuels français, et à certaines façons, ils étaient une sorte de guide pour moi dans mon développement intellectuel, politique, etc. Donc, arrivons aujourd'hui avec des personnages qui sont sur la scène publique en France. Bon, je suis un peu triste parce que je crois que quelque chose était perdu. En France, il y a des intellectuels moins grands, moins importants et surtout moins universalistes. Parce que une de, si vous voulez, la définition des intellectuels, c'est rapport avec l'universalisme. Et je crois qu'aujourd'hui, l'intellectuel français actuel n'est pas à la hauteur. Voilà, ni au point de vue de production culturel, ni au point de vue intellectuel.
Alors vous parlez beaucoup de Michel Houellebecq, hein, qui est un intellectuel selon vous. Au fond, c'est aussi et peut-être d'abord un écrivain, l'un des plus grands écrivains français, avec Extension de domaine de la lutte par exemple, ou Sérotonine. N'est-ce pas une erreur de le prendre au sérieux finalement comme penseur?
C'est bon, une bonne question. Non, je crois que, vous savez, ce n'est pas de prendre au sérieux, pas prendre au sérieux. C'est le poids, c'est-à-dire tous mes élèves savent qui est Houellebecq. Et il a écrit Les Soumissions qui a fait éclat dans le monde. Et Les Soumissions, c'est une déclaration pas seulement littéraire, c'est une déclaration politique. C'est un rapport à certaines situations historiques. Donc, je crois que Houellebecq est très important pour comprendre aujourd'hui l'ambiance intellectuelle à Paris. Et exactement comme il y a 100 ans, un peu plus, que Zola était importante de tout point de vue, et on peut aller plus loin vers Balzac, etc. Les écrivains étaient toujours des intellectuels publics, et ils se mêlaient dans les grands débats des 19e siècle et des 20e siècle.
Alors on peut être d'accord avec vous, par exemple sur Éric Zemmour, sans doute on tombera d'accord, mais malgré tout, pourquoi est-ce que vous vous concentrez seulement sur quelques figures médiatiques, comme lui, comme d'autres, quand il y a aussi Esther Duflo, qui a eu le prix Nobel d'économie, Thomas Piketty, Olivier Roy, Pierre-Rosan Vallon, Bruno Latour, bien d'autres, qui sont des intellectuels français bien vivants, hein, ils ne sont pas morts. L'intellectuel français existe, Shlomo Sand?
Moi, je crois que Latour est un grand penseur, mais très peu intellectuel. Vous savez qu'en anglais, on ne dit pas intellectuel, on dit intellectuel public.
Public intellectuel, oui.
C'est rapport... Pardon?
Public intellectuel, en effet, public... oui.
Oui, et maintenant, avec Piketty, je suis tout à fait d'accord, mais comme j'écrivais les livres, Piketty n'était pas encore Piketty. C'est-à-dire, les livres commençaient à démarrer en 2014, et justement, c'était l'année que j'ai achevé cet ouvrage qui est paru en 2018. Donc, si vous voulez, Piketty n'était pas encore intellectuel à l'époque que j'ai rédigé les livres. Ça, c'est une chose. Avec Latour, c'est un grand penseur, un des grands penseurs vivants aujourd'hui, mais ce n'est pas un grand intellectuel. Ses interventions dans les scènes publiques sont très, très limitées. Et je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants en France, malheureusement, qui savent qui était Latour, quelles sont ses positions face à la modernité, à la politique, etc. Et qu'est-ce que vous avez mené?
Oui, Olivier Roy, Esther Duflo, on pourrait en citer beaucoup, mais une question de Zoé Sfez maintenant.
Oui, alors effectivement, je me sens, on sent que vous regrettez et vous décriez la chute finalement de cet intellectuel universaliste et de sa portée, sa volonté universaliste, et vous décriez finalement ou vous regrettez l'émergence de ce que vous appelez des intellectuels spécifiques qui parlent essentiellement à leur champ, qui refusent de jouer le jeu des grands médias. Et pourtant, il me semble quand même que ces intellectuels-là, et certains en font partie, Olivia Roy, on pourrait le mettre dans cette catégorie aussi, existent pourtant beaucoup sur les réseaux, sur Internet. Ils sont, disons, peut-être effectivement plus spécifiques, mais plus militants. En quoi est-ce que, pour vous, c'est dommage qu'il y ait cette espèce de changement effectivement historique? Est-ce que vous ne voyez pas aussi l'opportunité que ça représente, puisque d'une certaine manière, l'universalisme, on a l'impression qu'on est en train d'en venir à bout?
Non, justement, le problème avec l'intellectuel qui vous définit comme spécifique, il y a un problème. On ne l'attend pas et il n'entre pas dans le scène public. Maintenant, ce n'est pas que je regrette ou je ne regrette pas. Mes étudiants, par exemple, ne savent pas qui est Latour, ne savent pas les autres noms que vous avez nommés. Ils savent, par contre, qui était Foucault, qui est Bourdieu, qui est Sartre, Camus, etc. Maintenant, une des signes pour savoir le statut d'intellectuel français actuel, c'est voir les traductions, par exemple. La plupart des noms que vous avez mentionnés ne sont pas traduits. Maintenant, à propos des intellectuels spécifiques, c'est ça le problème. Les divisions de travail plus en plus grandes dans le champ intellectuel, universitaire, etc., ne laissent pas certaines généralisations que Sartre a pu avoir, ou Foucault a pu exprimer, etc. Donc, je ne critique pas l'intellectuel spécifique. Je dis que c'est un processus de diviser plus en plus de travail intellectuel, qu'on ne peut pas arriver à des déclarations plus générales, plus universalistes. On laisse les gens, comme on fait Zemmour, Finkielkraut, d'être l'expression aujourd'hui de l'intelligentsia française. Et ça, c'est un peu malheureux. Mais ce n'est pas que je suis contre l'intellectuel spécifique. Mais je me demande pourquoi ils ne sont pas traduits, ni en anglais, ni en hébreu, ni des autres langues.
Ouais, ça, effectivement, c'est une question qu'on pourrait se poser. Mais alors, justement, autre question. Qui, selon vous, aurait ou a pris la place des intellectuels français? Est-ce qu'il y a d'autres figures plus traduites, plus écoutées, notamment parmi vos élèves, qui viendraient d'ailleurs, qui auraient d'une certaine manière remplacé moralement ces figures des intellectuels français du XXe siècle?
Justement, je ne crois pas qu'il y a des remplacements. Je crois que nous sommes à une époque très intéressante, et si vous voulez que, bon, les médias peut-être a formé certains intellectuels autrefois, et les médias actuels, audiovisuels, vite fait, etc., forment aujourd'hui des autres voix. Donc, ce n'est pas, je suis un historien, je ne suis pas, quelqu'un qui critique les intellectuels, mais hélas, aussi, il y a un problème de processus mondial, à mon avis, que l'universalisme, le sens universel, est en train de se réduire et freiner aujourd'hui, et les gens s'intéressent beaucoup moins à certains discours, si vous voulez, et politique générale qui autrefois les gens s'intéressaient. Et je vois ça avec mes étudiants. Hélas, c'est ça les phénomènes aujourd'hui. Pour donner un exemple, vous savez, les traductions anglaises de cet livre, parce qu'il était traduit à plusieurs langues, ils ont rayé les points d'interrogation que j'ai mis dans les titres en français, c'est-à-dire la fin des intellectuels français, point d'interrogation. Ils ont enlevé ça en anglais parce que c'était clair qu'aujourd'hui...
Que c'était une affirmation, en fait.
Il n'y avait plus de point d'interrogation. Merci infiniment. On aurait beaucoup d'autres questions à vous poser, notamment par rapport au débat, par exemple, dont les fondateurs Pierre Nora ou Marcel Gauchet viennent d'annoncer qu'ils publiaient cet automne leur dernier numéro, indice peut-être de cette disparition de certains intellectuels français. Et puis aussi, au moment du procès des attentats contre Charlie Hebdo, vous avez une parole assez iconoclaste, hein, puisque ici, à France Culture, nous sommes évidemment tous Charlie. Moi-même, je redirais, je suis Charlie. Mais vous, eh bien, vous discutez ce débat-là, notamment en termes de liberté d'expression, de droit au blasphème, valeur absolue, certes, de la laïcité française, mais l'islamophobie dont vous parlez, je vous cite, fonctionne parfois un peu comme à certaines époques la judéophobie, et c'est aussi une des pages intéressantes, certes controversées ou critiques, ou en tout cas à débattre de votre livre. Merci infiniment, Shlomo Sand, d'avoir été en direct par par téléphone avec nous. Pardon, on manque un petit peu de temps. Et on en reste là pour ce soir dans Soft Power. La semaine prochaine, dans cette émission, nous consacrerons Soft Power à l'université Paris-Saclay qui monte dans le classement de Shanghai. Et puis on parlera du Puy du Fou. Je recevrai Nicolas Devilliers, le PDG du Puy du Fou. C'est la fin de cette tranche d'actualité en direct culture, médias, internationales et numériques. Dans un instant, le podcast de Guillaume Erner, Super Fail, ce soir autour du roi maudit Juan Carlos, suivi à 20h par Théâtre et Compagnie. Et j'ai encore le temps de vous signaler que demain, dans les matins de France Culture, les matins s'intéresseront à la vision de la République d'Emmanuel Macron avec l'historien ancien conseiller de François Hollande, Christophe Prochasson.